Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9NarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en anglais sous le titre Made to Stick. Ces idées qui collent est un essai de communication et de psychologie appliquée signé par Chip Heath et Dan Heath. Le livre part d'une observation familière des rumeurs, slogans et anecdotes se répandent avec facilité, tandis que des messages utiles, pourtant soigneusement préparés, sont vite oubliés. Les auteurs cherchent moins à défendre une théorie générale de la persuasion qu'à isoler les propriétés observables des messages mémorables. Leur réponse prend la forme du cadre success, simplicité, inattendu, concret, crédibilité, émotion et récit. Chaque principe est illustré par des situations issues du marketing, de l'enseignement, de la santé ou de la vie professionnelle. Le propos vise donc les personnes qui doivent expliquer, vendre, mobiliser ou transmettre une connaissance. Son intérêt central réside dans une méthode de conception clarifiée le noyau d'une idée, puis lui donner une forme qui retient l'attention, facilite la compréhension et incite à agir. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le cadre success décrit les composantes d'une idée mémorable. Le fil directeur du livre est le cadre success, dont les 6 lettres renvoient à simple, unexpected, concrete, crédible, émotionnel et stories. Il ne faut pas y voir une recette mécanique selon laquelle tout message devrait accumuler 6 effets. Les auteurs présentent plutôt ces dimensions comme des leviers de mémorisation et de transmission. Une idée devient plus robuste lorsqu'elle peut être résumée clairement, comprise sans jargon, jugée plausible, ressentie comme importante et replacée dans une situation intelligible. Ce cadre répond à un problème pratique. Les organisations confondent souvent exhaustivité et efficacité. Elles ajoutent des arguments, des données et des précautions, alors que le destinataire doit surtout identifier rapidement ce qui compte et pourquoi cela le concerne. La valeur du modèle tient à son usage diagnostique. Avant une présentation, un cours ou une campagne, il permet de demander quel élément est réellement inattendu, quel détail rend le bénéfice concret ou quelle preuve peut convaincre un public sceptique. Il articule ainsi la forme et le contenu. Rendre une idée adhésive ne signifie pas la vider de sa substance, mais organiser sa substance afin que les personnes puissent la retenir, la redire et la mobiliser dans une décision. Deuxièmement, la simplicité impose de trouver le noyau stratégique du message. La simplicité défendue dans le livre ne correspond ni à la banalité ni à la réduction de toute question complexe à un slogan. Elle consiste à découvrir le noyau d'une idée, soit la priorité qui doit survivre lorsque les détails disparaissent. Les auteurs rapprochent cette démarche de la discipline imposée par les messages brefs et les principes directeurs. Il faut arbitrer, exclure et hiérarchiser. Un message qui tente de satisfaire tous les intérêts à la fois perd souvent sa direction. Dans un contexte professionnel, une liste de fonctionnalités ne remplace pas une promesse centrale. Dans un cours, une accumulation de notions ne remplace pas la compréhension d'une relation essentielle. Cette exigence de sélection produit aussi une contrainte utile pour le créateur du message. Elle oblige à préciser le problème, le choix attendu et le critère de réussite. La simplicité peut alors conserver une tension intellectuelle. Une formule courte est plus efficace si elle ouvre une question ou indique une décision concrète, plutôt que si elle se contente de généralité. Le livre montre ainsi que la concision est un travail de conception. Elle facilite la transmission entre personnes, car chacune sait quelle idée protéger quand elle doit ensuite résumer le message à son tour. Troisièmement, surprise, concret et crédibilité transforment une affirmation en expérience vérifiable. Les principes de inattendu, du concret et de la crédibilité traitent de 3 obstacles distincts. Capter attention, assurer la compréhension et obtenir adhésion. Inattendu ne signifie pas rechercher un effet spectaculaire sans rapport avec le sujet. Il s'agit de rompre une attente, puis de créer une lacune de connaissances que le message va combler. Cette structure rend la curiosité active. Le concret, lui, donne aux personnes un terrain commun. Des termes comme qualité, innovation ou responsabilité restent ambigus tant qu'ils ne sont pas traduits en objet, action, comparaison ou situation reconnaissable. Une formulation concrète limite les interprétations divergentes et rend plus facile la mémorisation. La crédibilité ne dépend pas uniquement de experts ou des statistiques. Selon les auteurs, elle peut provenir de détails vérifiables, de démonstrations, de témoignages pertinents ou de tests que le public peut mentalement reproduire. Ces 3 leviers se renforcent, sans se confondre. Une donnée surprenante sans explication peut sembler artificielle. Un exemple concret sans preuve peut rester anecdotique. Une autorité sans rapport clair avec le problème peut paraître décorative. Le livre invite donc à relier une promesse précise à une preuve compréhensible, puis à présenter cette preuve de façon assez intrigante pour mériter attention. Quatrièmement, les émotions et les récits relient le message à une décision ou à une action. Pour les auteurs, une information ne devient pas importante parce qu'elle est objectivement exacte ou abondante. Elle doit aussi entrer en relation avec les préoccupations de son destinataire. Le principe émotionnel invite à montrer les conséquences humaines d'une idée plutôt que de compter uniquement sur des catégories abstraites ou des chiffres globaux. Cette approche ne se réduit pas à solliciter la compassion. Elle peut mobiliser identité, appartenance, responsabilité, autonomie ou désir de se conformer à une image de soi. La question utile devient alors quelle valeur personnelle ou collective cette idée permet-elle de protéger ou de réaliser. Les récits prolongent ce mécanisme en plaçant une difficulté, une décision et une issue dans une séquence facile à simuler mentalement. Une histoire efficace ne sert pas seulement à illustrer une conclusion déjà établie. Elle permet au public de répéter par imagination une réponse possible face à un problème. Le livre distingue ainsi la narration d'une anecdote décorative. Lorsqu'elle présente un conflit reconnaissable et une résolution instructive, elle fournit un modèle de comportement. Émotions et récits peuvent donc rendre un message plus actionnable. Ils transforment une consigne générale en situation dont le public comprend les enjeux, anticipe les obstacles et retient plus facilement la conduite à adopter. En dernier lieu, la malédiction du savoir explique pourquoi les experts communiquent souvent mal. Une contribution particulièrement utile du livre est la malédiction du savoir. Dès qu'une personne maîtrise un sujet, elle a du mal à retrouver le point de vue de quelqu'un qui ne possède pas les mêmes repères. Elle omet des étapes, emploie des mots spécialisés et suppose des liens qui ne sont évidents que pour elle. Les auteurs illustrent ce décalage par une expérience de chanson frappée sur une table. La personne qui connaît la mélodie surestime fortement la capacité d'auditeur à la deviner. Le problème ne vient pas d'une insuffisance intellectuelle du public, mais d'informations absentes du message. Cette idée donne une portée critique au cadre success. La simplicité et le concret ne sont pas seulement des artifices de marketing. Ils servent à reconstruire un contexte partagé. Pour les enseignants, managers, ingénieurs ou spécialistes, la conséquence pratique est de tester un message auprès de personnes non expertes avant de le diffuser. Il faut écouter leur reformulation, repérer les termes incompris et vérifier si elles identifient bien la décision attendue. Le livre ne promet pas de supprimer entièrement ce biais, car on ne peut pas oublier ce que l'on sait. Il propose plutôt des dispositifs de communication qui compensent cette asymétrie et ramènent le message au niveau de l'expérience du destinataire. En conclusion, ces idées qui collent conviennent particulièrement aux responsables de équipe, enseignants, professionnels du marketing, vendeurs, entrepreneurs et spécialistes qui doivent présenter une expertise à des publics non spécialistes. Il intéressera aussi les personnes qui écrivent des notes, conçoivent des formations ou préparent des prises de parole. Son bénéfice pratique est de fournir une grille de révision précise, dégager le noyau du message, introduire une rupture pertinente, remplacer les abstractions par des situations observables, choisir une preuve adaptée, clarifier les enjeux humains et vérifier si un récit peut faire imaginer action. Sur le plan intellectuel, le livre rappelle que la mémorisation ne dépend pas seulement de la répétition ou de la qualité intrinsèque d'une information. Elle dépend aussi de la manière dont les limites de attention, de connaissance et de interprétation sont prises en compte. Par rapport à de nombreux ouvrages de persuasion, il se distingue par un cadre court, transversal et appuyé sur des exemples variés, plutôt que sur des techniques de vente isolées. Il ne fournit pas une garantie de diffusion ni une excuse pour simplifier abusivement des sujets complexes. Sa force réside dans le lien établi entre rigueur de sélection et compréhension du public. La malédiction du savoir donne notamment une profondeur utile au propos. Le défi est moins de parler davantage que de rendre visible ce que le destinataire ne peut pas encore voir. Lu comme un outil de diagnostic, le livre reste une référence accessible pour concevoir des messages plus clairs, plus crédibles et plus faciles à transmettre. Si vous souhaitez soutenir Chip Heath, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.